Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1910 dans les Cahiers de la Quinzaine, Notre Jeunesse est un essai politique et moral de Charles Péguy, ici accompagné de La Raison, texte antérieur de 1901. Loin de proposer une histoire neutre de la Troisième République, Péguy réexamine son propre itinéraire de socialiste, de républicain et de Dreyfusard afin de mesurer ce qui est advenu des idéaux de sa génération. Son point de départ est l'affaire Dreyfus, non comme simple épisode judiciaire, mais comme épreuve de vérité pour les consciences et les institutions. L'ouvrage développe une opposition devenue célèbre entre mystique et politique. Par mystique, Péguy désigne l'élan initial, désintéressé et exigeant, qui porte une cause de justice. La politique commence lorsque cet élan est administré, organisé ou exploité par des intérêts de pouvoir. Essai polémique, dense et volontairement répétitif, le livre défend une fidélité intransigeante aux principes républicains contre leurs usages opportunistes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la mystique et la politique comme diagnostic de la dégradation des causes collectives. La distinction entre mystique et politique constitue la charpente de notre jeunesse. La mystique ne renvoie pas d'abord à une doctrine religieuse. Elle désigne l'origine vive d'une cause, le moment où des individus s'engagent sans calcul parce qu'ils jugent une injustice intolérable ou un idéal supérieur à leur intérêt. La politique est nécessaire dès lors qu'une action doit se coordonner dans la cité. Mais elle devient destructrice lorsqu'elle se présente frauduleusement comme la mystique elle-même. Péguy ne condamne donc pas toute organisation politique. Il vise la substitution des stratégies, des carrières et des intérêts de parti à la vérité qui avait suscité l'engagement initial. L'affaire Dreyfus lui fournit le cas décisif. Le combat pour la révision n'avait de valeur, selon lui, que s'il était mené au nom de la justice pour un homme injustement condamné. Une fois récupéré comme emblème ou ressource de pouvoir, il risque de perdre son exigence propre. Cette analyse permet de comprendre la sévérité de Péguy envers les ralliements tardifs et les discours de vertu sans coût personnel. Sa formule célèbre n'affirme pas une fatalité mécanique, mais avertit qu'une cause doit sans cesse vérifier si ses moyens, ses institutions et son langage restent ordonnés à sa fin première. Deuxièmement, l'affaire Dreyfus comme épreuve concrète de la fidélité à la justice, notre jeunesse est inséparable de l'engagement dreyfusard de Péguy. L'essai refuse que cette affaire soit réduite à une querelle révolue entre camps idéologiques. Elle devient le critère à partir duquel il distingue une conviction réelle d'une adhésion de circonstances. Défendre Dreyfus signifiait, pour Péguy, accepter de soutenir un homme attaqué au nom de la raison d'État, du nationalisme et de préjugés collectifs. La justice n'y est pas une abstraction institutionnelle, elle oblige à examiner les faits, à refuser le mensonge et à maintenir une solidarité avec la victime, même lorsque cette position isole. Péguy revient notamment sur la figure de Bernard Lazare, qu'il associe à une forme de droiture initiale du combat Dreyfusard. Cette référence éclaire son hostilité aux lectures rétrospectives qui transforment une prise de risque passée en capital moral pour les vainqueurs. Il critique également des responsables républicains et socialistes, dont Jean Jaurès, lorsqu'il estime que leurs choix ont déplacé le centre de gravité du combat vers la tactique politique. Son jugement est partial et polémique. Mais son interrogation demeure précise, peut-on invoquer la justice tout en faisant primer la discipline partisane, la réussite électorale ou la conservation du pouvoir? Le livre invite ainsi à juger les engagements par leur cohérence effective plutôt que par leurs étiquettes. Troisièmement, une défense paradoxale de la République contre le républicanisme installé, Péguy attaque durement la République de son temps, sans renier l'idéal républicain. Cette tension est essentielle pour éviter de lire Notre Jeunesse comme un simple texte de désenchantement ou comme un rejet des institutions démocratiques. Il oppose la République vécue comme une foi civique, capable de demander des sacrifices, à un républicanisme devenu langage officiel, profession et mécanisme de reproduction des élites. Dans cette perspective, la République n'est pas garantie par le fait de se réclamer d'elle. Elle subsiste seulement si la liberté de l'esprit, la probité et l'égalité devant la justice demeurent des obligations pratiques. Péguy reproche à une partie du personnel politique et intellectuel de traiter ces principes comme des preuves d'appartenance plutôt que comme des exigences qui exposent et contraignent. Ses critiques de l'école républicaine et du parti intellectuel s'inscrivent dans cette inquiétude. Il voit dans les années 1880 et dans la consolidation des appareils une inflexion ou le savoir. L'administration et le discours progressiste peuvent se couper de la vie morale qu'ils prétendent servir. Le diagnostic est historiquement situé et souvent excessif. Mais il formule une question durable, comment une institution née d'une aspiration émancipatrice peut-elle empêcher que ses gardiens transforment cet héritage en monopole symbolique? Chez Péguy, la fidélité consiste moins à célébrer un régime qu'à maintenir vivantes ses raisons de justice. Quatrièmement, de la raison dénonce le simulacre rationnel de la démagogie moderne. Le texte de la raison complète utilement notre jeunesse. Car il précise que la critique de Peggy ne vise pas la raison elle-même. Il conteste au contraire son emploi décoratif dans une vie publique dominée par la démagogie. Parler au nom de la raison ne suffit pas lorsque les procédés employés reposent sur la simplification, la pression collective ou la dissimulation des intérêts. Peggy s'oppose ainsi à une rationalité qui serait uniquement théorique, administrative ou rhétorique. La raison doit se reconnaître dans les méthodes attention aux faits. Honnêteté du jugement, proportion entre les mots et les actes, refus de faire passer un intérêt particulier pour une nécessité universelle. Cette position explique la continuité entre le texte de 1901 et l'essai de 1910. Dans les deux cas, Peggy observe qu'un vocabulaire noble peut servir à recouvrir son contraire. La mystique républicaine peut devenir prétexte à la politique de parti, comme la raison peut devenir le masque de la démagogie. Son propos ne propose pas une procédure institutionnelle complète pour résoudre ce danger. Il rappelle plutôt une discipline intellectuelle et morale, les principes ne valent publiquement que si les moyens employés ne les démentent pas. Cette exigence donne au livre sa portée critique tout en signalant sa limite. Peggy privilégie la rectitude des consciences et se montre moins attentif aux compromis ordinaires par lesquels une démocratie doit aussi agir. En dernier lieu, une prose de la reprise qui fait de la polémique une méthode de pensée, la difficulté de notre jeunesse tient autant à sa forme qu'à son contexte historique. Peggy avance par reprise, variation, accumulation et retour sur les mêmes oppositions. Cette écriture peut déconcerter un lecteur habitué à un essai construit en chapitres démonstratifs. Elle ne relève pourtant pas d'une simple redondance. En répétant et en déplaçant une idée, Peggy cherche à empêcher que les mots de justice, de république, de raison ou de socialisme deviennent des formules inertes. Sa prose examine les termes sous plusieurs angles, insiste sur leurs conséquences et met en scène la résistance d'une conscience au langage convenu. Le résultat est une parole fortement polémique, qui nomme des adversaires et assume des jugements abrupts. Il faut donc distinguer la valeur de ces questions de l'adhésion à toutes ces condamnations. Certains portraits politiques sont liés à ces querelles du moment et à son sentiment de rupture avec une partie de la gauche dreyfusarde. Mais le style rend visible l'enjeu central du livre, une pensée vivante ne peut se satisfaire des classements reçus. La lecture demande lenteur et repères historiques, notamment sur l'affaire Dreyfus, les débats socialistes et la Troisième République. En échange, elle offre une expérience peu commune de l'essai politique, où la forme même combat l'automatisme intellectuel et oblige le lecteur à éprouver le poids des mots qu'il emploie. En conclusion, notre jeunesse précédée par de la raison s'adresse en priorité au lecteur intéressé par l'affaire Dreyfus. L'histoire intellectuelle de la Troisième République et les tensions entre socialisme, républicanisme et christianisme chez Peggy. Il conviendra aussi à ceux qui cherchent une réflexion exigeante sur la fidélité aux principes dans la vie publique. Sa lecturine n'est pas la plus immédiate, les références politiques sont nombreuses. Le ton est combatif et l'écriture procède par longues reprises plutôt que par démonstration linéaire. Une édition annotée ou quelques repères historiques peuvent donc être utiles. Le bénéfice intellectuel est toutefois considérable. Le livre fournit un vocabulaire précis pour interroger la récupération des causes, la professionnalisation du militantisme, l'usage intéressé des grands mots et l'écart entre une institution et son idéal fondateur. Il ne livre pas un programme politique transposable tel quel. Il exerce plutôt le jugement en montrant que la cohérence des moyens importe autant que la noblesse des fins. Par rapport à de nombreux essais politiques de son époque, Peggy se distingue par son refus de séparer l'analyse des institutions de l'examen moral des engagements. Il ne parle ni en observateur détaché ni en doctrinaire systématique, mais en ancien acteur du dreyfusisme qui met ses propres appartenances à l'épreuve. Cette voix personnelle, intransigeante et stylistiquement singulière, fait de l'ouvrage moins un manuel d'histoire qu'une méditation durable sur la corruption possible des idéaux collectifs. Si vous souhaitez soutenir Charles Peggy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.